Bonsoir, vous êtes bien dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy. Entre Chiens et Loups, notre émission culture. Et ce soir, je vous emmène dans un monde qui a une dimension artistique extraordinaire et une dimension humaine tout aussi extraordinaire. Nous allons nous promener et découvrir les 70 derniers jours de Vincent Van Gogh en compagnie de ceux qui vivent sur le lieu même où il a passé ses derniers jours et le lieu où il a mis fin à sa propre vie. Nous sommes en compagnie d'Hélène et Jean-François Serlinger qui sont à Auvers-sur-Oise et dont la propriété borde la petite route qui s'appelle la rue d'Aubigny, qui est extrêmement connue à Auvers-sur-Oise et où Vincent Van Gogh a peint la dernière œuvre de sa vie, le dernier jour, l'avant-dernier jour de sa vie, plus exactement, le 27 juillet 1890. Nous sommes 123 ans plus tard et nous allons vous raconter cette histoire extraordinaire avec ceux qui, désormais, depuis 3 ans, depuis le jour où, on va citer son nom, un chercheur, Wouter van der Veen a découvert l'existence en prenant devant son ordinateur une image d'un bosquet. C'est une carte postale ancienne et il a tout de suite vu qu'il s'agissait des racines, le dernier tableau de Vincent Van Gogh. Alors, bonsoir Hélène Serlinger.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Jean-François Serlinger.
Bonsoir à tous.
Merci de nous accueillir dans cet endroit mythique, je dirais presque mystique, puisqu'il se dégage de cet endroit, d'une part, la présence humaine et artistique de Vincent Van Gogh, mais aussi comme une sorte de vibration qui est très très forte et que tous vos visiteurs actuellement découvrent et ressentent. On va dans un instant suivre le sentier qui mène le long d'un bois qui mène au champ des corbeaux. C'est 10 stations en quelque sorte, 10 stations dans votre propriété que Van Gogh a arpenté. J'aimerais que vous nous disiez, dans un premier temps, Jean-François Serlinger, comment a été découvert ce site et ce qui en advient depuis quelques années, Jean-François Serlinger.
Alors, comme vous le disiez, ça a été découvert en 2020. Le 20 mai 2020, Wouter van der Veen et Dominique Janssens de l'Institut Van Gogh viennent nous voir pour nous dire, voilà, il y a quelque chose chez vous. C'est le début de l'histoire, l'inauguration au mois de juillet. Et depuis, on s'est mis à travailler avec la Fondation Van Gogh Europe, qui est basée à Amsterdam, au musée, et une équipe pluridisciplinaire d'andrologues spécialistes des arbres, géologues spécialistes de la terre, des roches, mais aussi les historiens de l'art qui sont réputés, qui sont les chercheurs comme Louis van Tilburg et Tayo Medendorp. Donc pendant ces 2 ans, nous avons travaillé, sachant que le site était au départ très encombré de branches, on ne pouvait pas voir la totalité de sa portée. Et donc aujourd'hui, le site c'est 200 mètres carrés, c'est 14 mètres à partir de la rue, c'est 20 mètres en haut. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que Van Gogh va peindre cette dernière œuvre sur un double carré. C'est un grand tableau, il en a fait que 13, dont 9 à Auvers. Et à l'époque, quand il écrit à sa famille, il dit « je veux faire quelque chose de puissant, de large, de grand ». Et on comprend mieux, 200 mètres carrés, c'est grand. Et ensuite, ce qui est apparu, c'est que les personnes qui venaient, les chercheurs, quelques visiteurs, écrivains et autres, voulaient aller jusqu'au champ de blé au corbeau. Donc, cheminaient sur cet ancien sentier qui traverse le terrain, les 2500 mètres carrés. Et ce qui était étrange, c'était l'émotion, le ressenti. Il y avait quelque chose qui se passait. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, dans la perspective de l'exposition Van Gogh à Auvers, organisée à Orsay et à Amsterdam, le catalogue, les chercheurs se sont mis au travail et on a découvert que ce sentier était utilisé à l'époque par les ouvriers agricoles et très certainement par Van Gogh pour aller peindre une dizaine de ses toiles sur le plateau.
Eh bien, on va se retourner vers Hélène Serlinger, qui elle-même est artiste peintre et qui connaît parfaitement, hein, puisque tous les deux, vous vivez tous les jours, à chaque instant, avec Van Gogh, dans la lumière qu'il a vue, dans l'air qu'il a respiré. Et Hélène Serlinger, qui est artiste peintre, vous pourriez nous décrire les images que peut avoir connu Van Gogh et qui a donné lieu à son dernier tableau, Racine. Qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce que vous ressentez de ce qu'il a vu, Hélène Serlinger ?
Je pense que Vincent Van Gogh a choisi cette falaise avec ses racines mises à nu pour exprimer sa lutte pour la vie, et avec son génie il a pu faire un tableau qui est malgré tout lumineux, et c'est vraiment un tableau qui interpelle, parce que nous n'avons pas l'habitude de voir ce genre de tableau peint par Van Gogh. On aurait pu penser à une certaine période qu'il était abstrait, mais non, en fait, c'est la réalité, c'est vraiment toutes ces racines qui ont été peintes, et avec le génie des couleurs qu'il avait, et ça touche énormément.
Il se trouve que Vincent Van Gogh arrive, je suppose, d'Arles en mai 1890. Son frère Théo semble connaître un peu ce village Auvers-sur-Oise. Il connaît plus ou moins le fameux docteur Gachet, qui a une petite chambre à louer, et il lui dit « Écoute, la lumière ici semble pouvoir te convenir, et tu seras beaucoup moins loin de moi, et on pourra, et je suis sûr que tu vas pouvoir vivre. » Il se trouve que les 70 derniers jours de la vie de Vincent se déroule donc ici, et avec une sorte d'acharnement incroyable, il a une productivité que vous, Hélène Serlinger, peintre, vous n'imaginez même pas que ce soit possible. Il a peint 74 toiles, oui, c'est bien ça ?
Absolument, 74 toiles en 70 jours. Vincent Van Gogh était un travailleur acharné, il se levait tôt, il travaillait énormément. Et en fait, sa peinture touche énormément de gens, parce qu'en ce n'est pas, c'est le, il y a le sujet, mais ce qui compte aussi, c'est le spectateur qui est touché par sa peinture. En fait, lorsqu'il représente quelqu'un qui travaille, quelqu'un ce qu'il représente, c'est la difficulté, la dureté du travail. C'est pas l'esthétique de la personne qui est en train de travailler. En fait, ça va bien au-delà. Et en fait, il y a des gens qui ne connaissent pas Vincent Van Gogh, qui vont dans une exposition, et que même s'ils n'ont jamais vu de peinture, ils se trouvent être submergés par l'émotion.
Alors, c'est très intéressant, parce que depuis quelques mois, vous faites visiter ce site extraordinaire. Les gens viennent du monde entier. Hein, je peux en être témoin. Des Anglais, des Américains, des Italiens et bien sûr des Japonais qui adorent Van Gogh depuis bien longtemps sont devant votre portail pour venir visiter et les gens du coin, les Parisiens et autres peuvent venir visiter. On en parlera dans un instant. Mais vous avez mis au point en quelque sorte un sentier, le sentier du peintre, le sentier des derniers jours. Vous parlez d'un site qui peut enfin, faire fondre les gens d'émotion. Qu'est-ce que vous ressentez vous-même dans ce site qui vivait Van Gogh matin, midi et soir, et même la nuit sans doute, puisque vous en rêvez?
Alors effectivement, ce qui est intéressant dans ce site, c'est que il est visible 365 jours par an de la rue, gratuitement. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que le site visible de la rue, c'est une chose. Mais lorsque vous le traversez, c'est un petit peu lorsque vous traversez le miroir. Comme Alice au Pays des Merveilles, vous traversez votre propre miroir et il est probable que l'artiste, lui aussi, quand il voit ce paysage, il veut décrire ce qu'il ressent, sa difficulté, comme disait Hélène. Et donc, ce qu'on ressent, c'est que il y a cette vision externe, mais il y a ce sentier qui est ancien, qui a toujours existé, mais qui n'était plus utilisé, tout simplement parce que maintenant on a des voitures, des motos, des tracteurs, et qu'à l'époque, pour aller du centre d'Auvers au champ, pour aller travailler, on passait par là. C'était un raccourci. Et ce raccourci, on sait maintenant, par rapport à des éléments de recherche, que Van Gogh l'utilisait tout simplement pour réaliser une dizaine de tableaux à la fin de sa vie, c'était au mois de juillet.
À la fois extrêmement créatif et assez funeste pour lui, mais j'aimerais Hélène revenir à l'artiste que vous ressentez chez Van Gogh, et vous dites avec une grande perspicacité que c'est une peinture consolante. Pourriez-vous nous dire ce que ça signifie pour vous de trouver un artiste qui a, dont l'œuvre est consolante?
Oui. Oui, je pense que Van Gogh, la peinture de Van Gogh est une œuvre consolante pour les consciences inquiètes. En fait, à la fois ça l'apaisait lui-même, parce qu'il peignait, et ça lui redonnait un certain calme et certainement une énergie qui lui permettait de tenir, parce que c'était un homme tourmenté qui avait des difficultés de vie. Je pense que ça lui donnait la force de continuer, mais à la fois ça donne aussi la force, une certaine force et une consolation à ceux qui admirent les œuvres.
Il s'adressait effectivement pas spécialement aux grands collectionneurs, puisqu'il a vécu toute sa vie plus ou moins dans la misère, à essayer d'avoir 3 sous pour s'acheter de la peinture et des toiles. Il s'intéressait aux petites gens. Il s'intéresse et sa correspondance avec son frère Théo, qui est toujours une œuvre en soi magistrale, une œuvre d'écriture, puisqu'il aurait pu être aussi écrivain, il l'a été un peu, manifeste ce doute de lui-même et il mettait en quelque sorte la barre très haut, sans vouloir se comparer aux très grands artistes depuis la Renaissance. Il connaissait parfaitement bien l'histoire de l'art, Vincent Van Gogh, et il doutait énormément de lui-même, et il s'intéressait en effet aux petites gens. On va peut-être prendre le chemin, le sentier des derniers jours, le sentier des 70 derniers jours, sous votre conduite, et Hélène et Jean-François Serlinger, et on va passer un tout petit peu de musique et on se retrouve dans un instant sur le sentier de la vie.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Nous abordons donc le sentier de vie des derniers jours, puisqu'il a vécu ici donc pendant quelques semaines à Auvers-sur-Oise, et nous sommes sur le sentier qui monte, et j'aimerais que Jean-François Serlinger nous dise sur à quel endroit on est ici précisément, et que ceux qui nous écoutent se figurent bien le lieu.
Alors, on va entamer en réalité sa dernière montée vers la plaine, puisque ce dernier jour, il quitte sa chambre avec un pistolet en poche, en fin de journée, pour aller se suicider dans la plaine. Donc, il va monter le long de ce coteau, et ce qui va se...
Il y a une telle émotion à la fois intérieure et puis extérieure. Il se trouve que nous sommes à quelques mètres au-dessus de la rue d'Aubigny à Auvers-sur-Oise, où se déroulent actuellement des travaux publics. Donc voilà, ceci explique cela. Donc on est le dernier jour de sa vie. Van Gogh monte vers l'au-delà, en quelque sorte, et il emprunte ce sentier.
Voilà, il traverse ce miroir, en quelque sorte, et il est ce jour-là, il décrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, une pente raide. Il est au pied du mur de sa vie, et il va gravir sa dernière montée vers la plaine, et on verra tout à l'heure que les champs de blé, c'est extrêmement important pour lui, puisque ça représente l'humanité. Et le faucheur, ben, on le sait tous, c'est la mort. Et il va aller se réfugier dans ce champ de blé tout à l'heure. Donc il est à flanc de colline, et il décrit ces arbres qui sont prêts à tomber, et on est dans un premier niveau intermédiaire de ce sentier qui monte vers la plaine.
Oui, et nous sommes devant un tableau, puisque ce sentier qui est constitué de 10 étapes vers la montée, devant ce tableau, il y a quelques phrases que vous avez pu tirer de la correspondance de Vincent à Théo, et où il envoie à Théo un dessin. Il demandait souvent son avis à son frère. Qu'est-ce que tu penses de ça et tout ça. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un dessin de racines dans un sol desséché
qu'il peint en 82, et qui a permis aux chercheurs de faire le lien. C'est-à-dire qu'effectivement, il peint cette racine dans un sol desséché, et il veut décrire, comme il dit, je voulais exprimer aussi bien dans ces silhouettes blanches de femmes que dans ces racines noires osseuses quelque chose du combat de la vie. Et au mois de juillet, il prononce cette fameuse phrase, « Moi aussi, je suis attaqué à la racine, mon pas chancelle ».
Ah, c'est extraordinaire, parce que on va suivre ce chemin avec Hélène et Jean-François Serlinger. C'est comme une montée. Il y a un côté mystique, qui n'est pas forcément religieux, mais on sent la force intérieure de Vincent.
Absolument, puisqu'en fait on marche, on sait que Vincent Van Gogh a foulé ce sentier, et ça, a respiré cet air, a vu ces paysages, parce qu'en fait quasiment rien n'a changé depuis 133 ans, et donc on est en connexion sur ces trois derniers jours. Ça nous met une connexion, on sait ce qu'il a fait sur ces trois derniers jours, et c'est... Ça nous touche énormément, et ça touche beaucoup de gens.
Et en effet, nous montons un sentier dans un bois. On a quitté la falaise, comme disait Jean-François Serlinger, le dernier mur de sa vie, et la formule est très belle. Nous montons et nous découvrons un paysage superbe, puisque on découvre la vallée de l'Oise avec ses forêts, et puis juste à nos pieds le village d'Auvers-sur-Oise. Alors nous arrivons à une nouvelle station. Je parle comme s'il s'agissait d'un chemin de croix, à une nouvelle station où
qu'est-ce que ça évoque ici, cet endroit ? Alors, dans cette montée, on atteint enfin le plateau, c'est-à-dire qu'on sort de la vallée, et on va aborder le bois, on a le panorama de tout le village, et on a sous les yeux le dernier témoin vivant. Puisque ce site, c'est deux notions, c'est la difficulté de vivre, de survivre avec la mort, hein, bien sûr, la racine qui est en bas, qui est morte, mais il reste un acacia qui est toujours vivant, la racine a plus de 350 ans, et l'effluent se renouvelle tous les 30, 40 ans à l'époque, puisqu'on coupe les arbres pour brûler, pour faire de la construction, pour la vie de tous les jours, en fait, hein.
Jean-François Serlinger, vous qui vivez dans cette œuvre de Van Gogh et dans le site dans lequel il a vécu ces dernières semaines, il a un rapport très important, et vous l'établissez aussi, comme les chercheurs avec lesquels vous travaillez, entre l'homme et la nature. Il est dans cette profonde intimité qu'il ressent sans doute lui-même, il en parle beaucoup, hein. Quel rapport a-t-il, Vincent, avec la nature ?
Alors c'est intéressant, puisque les peintres qui sont venus ici auparavant, Corot, Daubigny, Pissarro, sont très intéressés par la rivière, l'eau. C'est pas le cas de Van Gogh. Il ne fera qu'un seul tableau décrivant l'eau. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la nature, qui est consolatrice aussi pour lui. Seulement ce jour-là, la traversée du bois ne suffira pas pour lui. Cette nature consolatrice ne suffira pas. Et c'est intéressant parce que on parlait du double carré de ces tableaux de 1 mètre de large par 50 cm de haut. Il en a fait 13, dont 9 ici. Et on a ici la représentation d'un tableau qu'il a peint avec deux personnages et des arbres. Et pour lui, l'homme et la nature, l'homme et les arbres, c'est pareil. C'est-à-dire que les arbres ont une âme pour lui et il est bien dans sa nature.
Alors j'aimerais citer ce que il écrit à Théo, et je disais que c'était aussi un écrivain, et voilà ce que dit Vincent Van Gogh en septembre 1888. J'ai une lucidité terrible par moment lorsque la nature est si belle de ces jours-ci, et alors je ne me sens plus, et le tableau me vient comme dans un rêve. Ah, mais c'est, et on voit, vous avez pour les promeneurs qui viennent sur ce sentier que vous ouvrez au public, hein, depuis quelques semaines, eh bien le promeneur peut visualiser cette réflexion sur la nature avec des tableaux, des extraits de tableaux, hein, de différentes époques, mais plutôt de la fin de sa vie, qu'il a peint évidemment par ici, avec des arbres. La présence de l'arbre, vous parliez de l'acacia, et le trouble, le mouvement des branches des arbres qui est si marquant, Hélène Serlinger.
Oui, c'est une nature qui est extrêmement belle. En plus, il y a les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Au printemps, c'est extraordinaire. Tous les acacias sont en fleurs. Ce sont de grosses grappes de fleurs blanches qui sont très odorantes. Et voilà, c'est magique. C'est un lieu qui est absolument magique. Et on comprend que Van Gogh y ait été sensible, parce que les gens sont émerveillés de voir tant de beauté.
Oui, c'est extraordinaire, parce que la vibration que l'on ressent ici, et qui n'est pas simplement le fait d'être aujourd'hui une journée un peu nuageuse, où les feuilles des arbres tremblent au-dessus de nos têtes, eh bien, c'est vraiment une vibration tout à fait particulière, et je pense que c'est peut-être ça qui fait que les personnes, les visiteurs, aiment à la fois cette peinture que Hélène Serlinger nous décrit si bien, et puis en même temps ressentent au fond d'eux-mêmes ce que Van Gogh ressentait sans doute. Il vibrait à l'humanité, Jean-François Serlinger.
Alors en fait, ce qui est étonnant, on n'était pas décidé à ouvrir notre terrain, c'est notre jardin à l'origine, hein, mais étant donné les témoignages des personnes qui sont venues petit à petit, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait ici et qu'il y avait une connexion entre le peintre et chacun d'entre nous. Et cette connexion est d'autant plus impressionnante qu'en réalité le site est vivant. Et comme tout être vivant, à chaque instant il est différent. À chaque instant. C'est-à-dire que cette forêt, ces arbres, à chaque seconde, n'est jamais le même. Donc chacun a une expérience unique.
Et c'est ce qui fait la magie de la peinture et puis du bonheur qu'on a à parcourir en votre compagnie ce sentier, le dernier sentier de la vie de Van Gogh. Et en effet, chaque arbre, chaque branche, chaque partie de ce sentier qui grimpe, on l'entend peut-être par notre souffle, un souffle qui manifeste notre montée et puis aussi notre émotion à se dire que voilà, cet artiste qui est tellement aimé, tellement connu, a lui-même arpenté dans les derniers jours de sa vie. On va peut-être, avant d'arriver à la prochaine station, on découvre à peine maintenant un endroit absolument mythique de l'œuvre de Van Gogh, qui est cet immense chant des corbeaux. On va peut-être s'interrompre quelques instants pour, comme une sorte de méditation, avec un peu de musique.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Voilà, nous sommes au sommet de ce sentier de vie que Vincent a si bien décrit dans ses toiles, et toujours en compagnie de Jean-François Serlinger et d'Hélène Serlinger, les propriétaires de ce chemin mythique qui arrive dans cet endroit, mais qui est complètement saisissant, puisque on a l'impression de voir, comme dans une sorte de rêve, ce que voyait et ce qu'a peint Vincent Van Gogh. Nous sommes au bord du champ des Corbeau, le champ de blé au corbeau, un de ses derniers tableaux, évidemment. Jean-François Serlinger, dites-nous un peu si on rêve ou si on est dans la réalité.
Alors c'est l'aboutissement. On arrive donc au geste fatal, hein, dans ce sentier qui ne sera pas la fin de l'histoire. On va le voir après. Mais quand même, le champ de blé au corbeau, c'est le 6 juillet 1890. Il voit son frère, sa belle-sœur, et ça se passe pas très bien parce que son frère est malade. Il a la syphilis. Il mourra 6 mois plus tard. Et il va créer une instabilité chez l'artiste puisque son frère lui dit, voilà, moi je veux changer de métier. Je veux retourner en Hollande. Et c'est le 8 juillet qu'il va peindre le fameux champ de blé au corbeau, qui est une des œuvres essentielles du peintre.
Ce champ de blé, alors c'est assez amusant parce que c'est un tableau qui est composé en deux parties. Lorsqu'on est ici au sommet du sentier, le ciel fait à peu près les deux tiers de la vision qu'on a et le champ un tiers. Et dans la vision que Vincent Van Gogh nous donne de cet endroit, le ciel et la terre se partagent le tableau. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes Hélène, vous qui composez, qui vous intéressez à la composition évidemment de la toile, puisque vous êtes artiste peintre?
Oui, bien sûr. En observant, en appréciant cette toile, nous voyons que, comme le disait Vincent Van Gogh lui-même, que ce sont d'immenses étendues de blé sous des ciels troubles. Et je ne me suis pas gênée pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême. Voilà, c'est une toile qui, où le bleu, le noir reflète vraiment cette inquiétude.
C'est toujours très curieux parce qu'il commente ces tableaux avec non pas la technique du peintre, mais avec le cœur, les émotions, la psychologie du peintre. C'est trop banal.
Oui, tout à fait. En fait, les tableaux font cet effet. Les tableaux touchent le spectateur dans sa psychologie. En fait, bien sûr, Vincent Van Gogh souhaitait représenter ce champ de blé, mais avant tout, l'idée première, c'est de nous faire ressentir cette inquiétude qui en ressort. Avant même les blés et les corbeaux et le ciel et les sentiers, c'est vraiment ce qu'il ressentait, ce qu'il ressentait profondément qui était important.
Oui, en fait, c'est pas un peintre pour les galeries et les collectionneurs, c'est un peintre pour notre être au monde. On aperçoit à l'endroit où nous trouvons, dans ce ciel un peu gris qui nous surplombe aujourd'hui, les blés sont coupés et on aperçoit le mur du cimetière d'Auvers-sur-Oise. Dites-nous, Jean-François Serlinger, ce cimetière est aussi mythique que l'œuvre de Vincent?
Alors, effectivement, le cimetière, c'est étrange parce qu'au bout de ce sentier, ici, on aperçoit la suite de l'histoire de Van Gogh. C'est-à-dire qu'effectivement, il va se suicider dans un champ de blé et c'est pas par hasard. Et c'est pour ça qu'on met un tableau avec le champ de blé et le faucheur, puisque pour Van Gogh, le blé, c'est l'humanité. Et il explique qu'il n'y a rien de triste dans cette humanité qui se renouvelle et qui meurt. Rien de dramatique. Et on entend aussi l'église sur notre droite, au fond. Mais c'est le renouveau qu'il annonce aussi, parce que le blé est coupé et l'année d'après, il repoussera. Et ce site reflète cela. Il y a le renouveau, il y a la difficulté de vivre, mais il y a le renouveau. Et cette nature renaît chaque année.
Oui, merci de nous remettre dans le cycle de la vie, puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit avec Vincent. On va poursuivre notre promenade avec Jean-François et Hélène Serlinger. Alors, autour de nous, donc, il y a des tapis de feuilles et de lierre. Le lierre et de troncs d'arbres tombés sans doute par les tempêtes, mais avec des formes torturées. Vous les verrez, ces troncs, lorsque vous viendrez vous promener par ici. C'est toujours très saisissant, parce que dans le dessin même, dans la manière de peindre de Van Gogh, on a toujours ces formes tourmentées. Rien n'est véritablement fixe, rien n'est véritablement droit, rien n'est véritablement stable, tout est en mouvement et en torsion. Jean-François Serlinger.
Alors c'est très troublant, parce que sur les 10 derniers mètres de ce sentier, juste avant le champ de blé au Corbeau, on remarque, le visiteur remarque quelque chose d'étrange. Les arbres sont tous penchés. Un arbre normalement meurt et tombe. Ici, par le manque de terre et la présence d'un fond rocheux, les arbres n'arrivent pas à s'enraciner profondément. Donc ils se penchent, parfois ils tombent et ils meurent. Or c'est exactement ce qui va se passer pour Van Gogh. Il va tomber, mais il mourra après. Il se tire une balle et c'est comme si la nature se souvenait et parlait de cet événement qui a eu lieu il y a 133 ans.
Le 27 juillet 1890, un des panneaux qui nous accompagne pendant cette promenade nous raconte un destin hors du commun. De quoi s'agit-il, Hélène Serlinger ?
Alors tout d'abord d'un soutien indéfectible de la part de son frère Théo, qui était toujours là à ses côtés pour déjà financièrement, et pour le soutenir et pour lui dire de continuer. Et puis il y a aussi sa femme Johanna Bonger, qui a été absolument importante, puisque elle s'est retrouvée veuve après le décès et de Vincent et de Théo, son mari, qui est mort 6 mois après Vincent. Et c'est une femme qui était professeure d'anglais et qui a passé sa vie à essayer de mettre à l'honneur la peinture de son beau-frère. Et donc elle a commencé par traduire toutes ses lettres, puis a commencé à vendre certaines toiles pour organiser des expositions, et ce qui a permis petit à petit à ce que Vincent Van Gogh soit de plus en plus connu et apprécié. Et puis il y a eu également leur fils, le nouveau-né, donc qui a créé le musée Van Gogh d'Amsterdam en 73, et voilà, et qui a dédié sa vie également pour la notoriété de Vincent Van Gogh.
Alors, il se trouve que dans votre destin à vous de vie, Jean-François et Hélène Serlinger, lorsque vous avez acquis cette maison il y a quelques années, avec ce terrain qui semblait un peu, un terrain un peu sauvage, il a fallu remettre un tout petit peu d'ordre, mais il garde cette caractéristique de bois, et d'ailleurs ça lui donne un peu son mystère. Vous ne vous attendiez pas à faire partie de la famille Van Gogh, puisque maintenant vous êtes toujours invité, et les descendants de Théo, puisque évidemment Vincent n'a pas eu d'enfant, les descendants de Théo qui magnifient justement l'œuvre de leur arrière-grand-oncle, viennent ici, vous les recevez, et vous êtes aussi très souvent invité à Amsterdam pour poursuivre la recherche. Donc vous êtes vraiment dans le cercle familial des Van Gogh, Jean-François Serlinger.
Alors en fait, on est un petit peu aspiré par Van Gogh. J'ai l'habitude d'utiliser l'expression d'un trou noir, sauf qu'il est bienveillant, celui-là il ne détruit pas. Une fois que vous êtes aspiré, l'artiste vous entraîne. Et on a voulu sur ce panneau rendre hommage en fait à ceux grâce auxquels nous sommes tous les tous les trois ensemble aujourd'hui. Et effectivement, nous travaillons avec le musée d'Amsterdam, les chercheurs, pour rendre compte dans ce site de et la Fondation Van Gogh Europe qui est basée à Amsterdam, pour rendre compte de fait de ce qui pourrait être, de conditionnel et aussi de l'imaginaire, des croyances en fait. Mais nous faisons la distinction entre les trois pour être le plus honnête possible par rapport au peintre et à toute cette famille qui, il faut le rappeler, effectivement, le fils de Théo crée la Fondation Van Gogh en 63 et va voir le gouvernement hollandais pour dire « Vous construisez le musée, j'apporterai les tableaux qui seront protégés définitivement dans la fondation et dans le musée. » Donc c'est une coopération entre la famille et les autorités d'Amsterdam, les autorités hollandaises. Et on sent bien que Vincent Van Gogh, chez les Hollandais, c'est un membre de la famille aussi, chez tous les Hollandais. Donc on est quelque part devenu un petit peu Hollandais depuis.
Eh bien écoutez, il y a pire comme situation. Et c'est vraiment extrêmement émouvant de se sentir si proche du fait que Vincent n'est pas seulement un artiste, mais c'est un homme profondément attaché à l'humanité, et toute son œuvre semble dédiée à cette humanité, Hélène Serlinger.
Oui, tout à fait. Vincent Van Gogh avait une très grande humanité et s'intéressait toujours aux plus démunis, aux plus pauvres. Il avait une grande empathie envers les gens, et je crois que tout le monde peut se reconnaître dans la vie et l'œuvre de Vincent Van Gogh, d'autant plus que Vincent Van Gogh n'était pas seulement un peintre, c'était en fait un poète, un écrivain et un philosophe. Voilà, c'est absolument passionnant de lire sa correspondance, et on en apprend, on en découvre. À chaque fois, nous, ça fait 3 ans que nous lisons quotidiennement des tas de livres, des tas de documents, et nous en apprenons chaque jour. Et c'est toujours un émerveillement.
Mais vous, Hélène Serlinger, vous êtes installée ici il y a peut-être une vingtaine d'années par attrait pour Van Gogh. Qu'est-ce qui a représenté pour vous à l'époque ?
Eh bien, écoutez, nous avions choisi de d'habiter dans un village du Vexin, et j'aimais beaucoup Auvers-sur-Oise parce que je venais souvent aux manifestations culturelles et à toutes les expositions de peinture, et j'adorais ce village, et notamment la rue d'Aubigny. J'allais toujours de l'église à la rue d'Aubigny jusqu'à la forêt, et je me promenais. Mon fils, qui a 29 ans maintenant, un de mes fils, en avait 2 ans, et je le rattrapais dans la pente. Donc c'était quelque chose de vraiment un lieu que j'adorais, et lorsque nous avons décidé d'aller dans un village, j'ai dit à mon mari, écoute, je voudrais aller vivre à Auvers-sur-Oise parce que Vincent Van Gogh a vécu là, et c'est un magnifique village, et j'ai toujours aimé Vincent Van Gogh, mais je ne sais pas l'expliquer. Je pense que j'ai été touchée, comme beaucoup de gens, par sa peinture, même ne le connaissant pas. Bon, maintenant je le connais plus et je l'aime autant, mais voilà, sans le connaître, je l'adorais.
Et comme vous êtes une artiste, évidemment, vous vibrez aussi à son œuvre, mais ce sont des millions de gens sur toute la planète qui aiment et qui sont attachés à cette personne, à ce personnage. Autant d'ailleurs, on parlait de vous parler de littérature et de philosophie, mais autant que de Rimbaud. Et il y a, quand on vous entend tous les deux, il y a comme une sorte de proximité entre ces deux hommes, deux marcheurs, hein. On imagine en effet Vincent arpentant les sentiers autour d'Auvers-sur-Oise, et Arthur Rimbaud marchant dans le désert. Et ils ont tous les deux quelque chose à nous raconter sur la marche, sur le pas, sur le vent, sur la nature. C'est bien ce que vous nous disiez, Jean-François, c'est cette proximité, cette intimité de l'homme avec la nature qui ressort tellement fort ici.
Alors, j'ai une idée qui me vient à l'esprit. En un an, on est allé 6 fois à Amsterdam, donc 6 fois en Hollande, et on découvre les Hollandais en même temps. Donc, ils sont à vélo, au soleil, sous la pluie, un bébé devant, un enfant derrière, et leur rapport à la pluie n'est pas le nôtre. Et on imaginait, on a lu effectivement que Van Gogh était un très très grand marcheur. Il n'hésitait pas à marcher 10 kilomètres, y compris sous la pluie. Ce que je veux dire, c'est que le rapport de Van Gogh à la nature, mais aussi les Hollandais, c'est un rapport, comment dire, pas brut, mais voilà, on ne craint pas ni le vent, ni la pluie. La nature nous parle tout le temps. Et là, on est sous la pluie, et pourtant, c'est pas désagréable.
Effectivement, on est sous la pluie, mais on est sous une pluie d'automne assez douce. Nous allons poursuivre notre parcours dans ces bois arpentés par Van Gogh au dernier jour de sa vie, mais on va écouter encore un peu de musique.
There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my mind and I ain't together, keeps winning all the time. Life is burned, room on misery everywhere, stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. Worry all the time. When he went away, the blues rocking and met me. If he stayed away, a rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me rock in the sun once more. Can go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my mind and I ain't together. Raining all the time, keeps raining all the time.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Toujours dans l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy, et nous sommes dans ce sentier des derniers jours de la vie de Vincent Van Gogh en compagnie de Hélène et Jean-François Servagé, et nous sommes devant un nouveau panneau avec les cerisiers en fleurs qui ont tellement séduit les Japonais, puisque au Japon on adore évidemment cette saison des cerisiers en fleurs. Et là en l'occurrence dans le tableau de Vincent Van Gogh, il s'agit d'amandiers, de branches torturées. Tout le monde connaît ce tableau avec ses fleurs blanches, et puis aussi un verger rose avec des pommiers et des cerisiers. On parlait de la marche et de son amour pour la nature, et j'aimerais que Hélène, vous nous disiez cette phrase qui est tellement profonde.
Voilà, célébrer la vie. Continue donc toujours à marcher beaucoup et à beaucoup aimer la nature, car c'est la véritable manière d'apprendre à toujours mieux comprendre l'art. Voilà, nous avons voulu mettre l'amandier en fleurs à l'honneur, puisqu'en fait c'est le tableau que Vincent a offert à la naissance de son petit-neveu. Voilà, c'est son cadeau de naissance. Et en plus, il était le filleul de Vincent Willem Van Gogh. Ce tableau qui représente la vie, les fleurs, c'est la régénérescence, c'est le retour à la vie, c'est les saisons. Et c'est pour ça que nous avons illustré avec également donc les pêchers et les vergers roses, parce que voilà, la vie est plus forte, et cette nature qui se renouvelle chaque année et qui est le sens de la célébration de la vie.
Et la célébration de la vie, et nous allons petit à petit descendre vers le village et retrouver ce moment, le dernier moment, à vrai dire, de la vie et de l'œuvre de Vincent Van Gogh. On l'a évoqué tout à l'heure, il s'agit du tableau intitulé Racine. Racine a beaucoup de sens dans l'histoire personnelle de Van Gogh. Il en parle assez souvent. Racine, c'est à la fois la naissance de la vie, l'énergie que les arbres viennent chercher de plus en plus profondément pour continuer d'exister. Et pour lui, ça a une sorte de sens métaphysique qu'il évoque d'ailleurs dans ses écrits, dans sa correspondance. Les racines, ça a du sens, Jean-François Serlinger, et nous abordons donc cette dernière phase de la vie de Vincent, cette œuvre majeur que Hélène, avec son sens artistique, nous a décrit tout au début de l'émission, j'aimerais que vous nous décriviez ce que l'on voit maintenant des racines qui sont encore là en place, mystérieusement, des dizaines et des dizaines d'années après la mort de Vincent Van Gogh.
Alors effectivement, ce qui est intéressant, je voudrais juste revenir sur l'espèce de l'arbre. C'est un robinier du nom de Jean Robin, qui était le jardinier d'Henri IV, et qui reçoit en 1601 quelques graines de faux acacias, on appelle ça, hein, qui viennent des Amériques, comme on dit à l'époque, des Appalaches. Et ces arbres datent de cette époque. La racine principale, les racines, ont plus de 350 ans. Donc ce sont les descendants directs des premières graines plantées en Europe. Il faut savoir que ces robiniers, du nom de Jean Robin, en Europe, viennent de ces quelques graines. Et donc ces arbres sont très particuliers. C'est le bois le plus dur d'Europe, plus dur que le chêne, mais c'est aussi le bois utilisé pour l'arche de Noé. Donc il y a beaucoup de symbolique. Je ne sais pas si c'était celle de Vincent, mais ses racines en plus sont sur un flanc calcaire, et elles plongent dans le flanc de la colline, entre les couches dures et molles de ce calcaire qui alterne avec du sablon. Et les racines plongent à 30-40 mètres, ils vont chercher l'énergie qui leur est nécessaire pour survivre sur ce qu'il faut reconnaître comme étant un milieu hostile et pas très riche.
Et puisque nous arrivons au terme de l'émission, j'aimerais que vous nous rappeliez comment on peut venir parcourir ce sentier avec vous. Vous faites partie donc de l'association Van Gogh Europe, avec des sites très très puissants que l'on trouve ici à Auvers-sur-Oise. Donc comment est-ce que on peut avoir le bonheur, comme je le fais, avec qui je partage, vous qui nous écoutez aujourd'hui, ce chemin?
Alors, nous sommes à l'initiative de la création d'une association, de l'association de sauvegarde du site des racines de Van Gogh, parce que ce site, on veut le transmettre aux générations futures. Et l'association nous a semblé la meilleure structure pour cela. Donc vous avez un site qui s'appelle Van Gogh Roots. Van Gogh Roots, R2OTS, en un seul mot, .com, et vous pouvez réserver vos visites, puisque le site ne peut pas être ouvert en déambulatoire. Il vous faut être guidé, et on le fait par petit nombre pour respecter ce sanctuaire naturel composé de ces arbres qui de plus ont une certaine fragilité. C'est l'écologie, c'est le développement durable. Il faut savoir que les érables ont une maladie, c'est la maladie de la suie, et que l'association s'est fixée comme but de pouvoir maintenir ce site vivant et donc de remplacer ces arbres au fur et à mesure de leur mort par des espèces plus résistantes.
Donc, on peut visiter ça tous les jours de la semaine ou que le week-end? Comment ça se passe?
Alors, c'est très variable, puisque pour l'instant, l'association est composée de quelques personnes, donc ça dépend de la disponibilité des uns et des autres. Mais effectivement, vous vous rendez sur le calendrier. Pour l'instant, nous n'avons pas de jour fixe, mais on ouvre au maximum. Donc il vous suffit d'envoyer un petit message, dire voilà, je veux visiter tel jour, et on est là.
Formidable. Pour découvrir ce site des derniers jours de Van Gogh, on peut aussi se référer à de la littérature, au catalogue d'exposition, et notamment de cette exposition qui a eu lieu à Amsterdam il y a quelques mois et qui se trouve actuellement au musée d'Orsay. Je crois qui attire évidemment énormément de monde. C'est les Hélène Erlinger, dites-nous, 70 toiles, c'est ça?
Voilà, alors en fait, il y a une cinquantaine de toiles qui ont pu être rassemblées sur les 74 peintes à Auvers. Et c'est vraiment, c'est merveilleux, parce que cette exposition, elle est unique, c'est une fois, hein, elle se passe maintenant, et c'est très impressionnant de voir toutes ces toiles et tout ce travail, mais on n'imagine même pas un individu pouvoir faire tant de toiles en si peu de temps. On se dit, mais c'est incroyable, sa force de travail, il avait une énergie folle pour cette peinture. Et vraiment, c'est magnifique, parce que c'est plein, et c'est un génie non seulement de la peinture, mais des couleurs, toutes ces couleurs merveilleuses, cette luminosité, tout ce qu'il a, il peut pouvoir, il nous touche, et tout ce qu'on peut ressentir en regardant les peintures. Vraiment, je conseille à tous de pouvoir aller visiter cette magnifique exposition à Orsay.
Et puis de suivre cette visite d'exposition par l'endroit même où il a passé ses derniers jours, ici même à Auvers-sur-Oise. Un très très grand merci, Jean-François Serlinger.
Mais merci à vous, Claude Lévy.
Merci chère Hélène Serlinger.
Merci beaucoup Claude Lévy.
Merci à vous, merci aussi à vous tous qui nous écoutez pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Entre Chiens et Loups. Portez-vous bien et régalez vos yeux et vos esprits par cette œuvre magnifique de Vincent Van Gogh, œuvre littéraire autant que picturale. Merci à tous et à très vite.